Notre Dieu, notre Père, merci de notre présence, parce que tu es au milieu de nous. Nous voulons encore te glorifier, te louer en ce jour nouveau, et que tu bénisses chacun d'entre nous. Révèle-toi, Seigneur Jésus, parce que ta parole est sainte, et si nous sommes présents, c'est pour entendre et recevoir ce que tu as pour chacun de nous. Alors merci, Seigneur Jésus, de ton amour et de ta grâce. Amen.
Ce matin, je vous propose d'ouvrir nos Bibles dans un texte de l'Épître aux Romains. Romains, chapitre 5, et nous lirons les 11 premiers versets. Romains 5, 1 à 11. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Dans ce texte, il y a deux mots qui m'ont marqué. L'un, c'est l'espérance, et l'autre, c'est l'amour. L'espérance. Paul nous dit qu'elle ne vient pas directement. Il y a un cheminement. Un cheminement qui commence par l'affliction, qui produit la persévérance, qui produit la victoire et qui produit l'espérance. Ce n'est pas le seul endroit où Paul associe ces termes, mais il le fait aussi en Romains 12, 12. Je vous le lis. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Et il n'est pas le seul. Jacques aussi nous parle d'un cheminement. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien. » Ce que Paul appelle l'affliction, Jacques l'appelle l'épreuve, et nous avons vu récemment qu'il y a un lien entre la patience et la persévérance. Et cela aboutit à l'espérance. Il s'agit de l'espérance de la gloire de Dieu. Dieu est et sera glorifié. Alors, comme le disait Michel tout à l'heure, peut-être la semaine prochaine, peut-être la seconde qui vient, on n'en sait rien, mais Dieu sera glorifié. Mais pas seulement. Pas seulement. Cette gloire, elle rejaillit aussi sur tous ceux qui lui appartiennent. Paul le résume aux Colossiens. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous de ce qui manque aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour mon corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire de Dieu rejaillissant sur nous. Alors l'espérance, c'est un aspect de ce texte, il y en a un autre, c'est l'amour. Vaste programme, on pourrait en parler pendant des siècles sans épuiser le sujet. La question que je me suis posée, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu nous aime ? Ah ! Alors peut-être est-ce que c'est parce que nous sommes aimables, tout simplement. Intrinsèquement bons, comme le disent les humanistes. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Pas du tout. Nous sommes corrompus par le péché. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire que je vous ai racontée récemment de Ohola et Oholiba, qui décrit l'horreur du péché. Voilà à quel point nous sommes aimables. Pas du tout. Nous ne sommes pas tout gentils et tout mignons. Bien au contraire. Alors peut-être est-ce que Dieu nous aime parce que nous lui obéissons ? Ben pas non plus. Il nous aime même quand nous lui désobéissons. Dieu n'est pas comme ses enfants qui disent « Tu fais pas ce que je veux, t'es méchant, je t'aime plus. » Non, ce n'est pas l'attitude de Dieu. Et on entend trop souvent des prières de reconnaissance de ce type. Elles sont tournées vers les bienfaits de Dieu au lieu d'être tournées vers Dieu lui-même. Si vous êtes parent, j'espère que vous aimez vos enfants sans condition. J'espère que vous aimez Dieu, pas seulement pour ses bienfaits, mais pour lui-même. Alors on en revient à la question, pourquoi est-ce que Dieu nous aime ? La bonne réponse, c'est parce que. On peut le dire aussi d'une autre façon, parce que c'est comme ça. Mais une réponse plus claire nous est apportée par Jean. 1 Jean, chapitre 4, versets 8 et verset 16. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et le verset 16, « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Dieu nous aime de façon inconditionnelle, parce que c'est dans sa nature. Il est amour, et même si ce n'est pas réciproque, et même si c'est douloureux pour lui, si c'est dans la souffrance, parce que nous le rejetons, il nous aime quand même. Il l'a prouvé par le sacrifice que nous allons célébrer maintenant. Alors je vous ai parlé de deux termes, l'espérance, l'amour. Peut-être que ça fait écho en vous et qu'il y en a un troisième qui vous vient. La foi. La foi qui est associée à ces deux premiers termes dans 1 Corinthiens 13, 13. La foi, une foi réelle, une foi en Dieu, une foi qui ne laisse aucun doute, aucune place pour la moindre ombre d'un doute. La foi en quoi ? La foi en Dieu, la foi en ses promesses, la foi en son amour. Alors, je ne vais pas détailler la foi aujourd'hui. Souvenez-vous de ce qui nous a été dit la semaine dernière lors du message où on a parlé de la foi. Alors, ce repas, je vous invite à le prendre avec foi, avec espérance et avec amour. Prions. Seigneur, nous nous plaçons devant toi pour nous souvenir de ce sacrifice que tu as fait pour nous par amour, pour l'exemple que tu es pour nous, cet exemple d'amour qui est passé par l'affliction, par le pire de l'affliction que tu pouvais ressentir, pour cet amour que tu as envers nous avec persévérance, malgré notre infidélité, par cette victoire glorieuse qui rejaillira aussi sur nous. Seigneur, merci pour l'espérance que tu nous donnes par cela. Amen.
Alors, je vous propose ce matin d'ouvrir vos Bibles dans le deuxième livre des Rois, chapitre 4. Un récit qu'on connaît bien, je pense, et on va commencer par lire les versets 8 à 17. Donc 2 Rois 4, 8 jusqu'au verset 17. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Tsunamite, Géasi l'appela, elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler de toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Elle dit, « Appelez-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Voilà, première partie du récit. Donc l'action se déroule à Sunem. Alors c'est sur le territoire d'Issacar, c'est à peu près à 50 km au nord de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est quasiment confondu avec la ville de Naplouse en Cisjordanie. Et là, le prophète Élisée, donc serviteur de Dieu, croise une femme dont il ne nous a pas dit grand-chose, on n'a même pas son nom, il est simplement rapporté une seule caractéristique, une femme de distinction. Et puis on sait qu'elle a aussi certainement quelques biens matériels, puisque dans la suite du récit, il est fait état d'un serviteur. Puis elle a aussi un mari, qui étonnamment, dans ce récit, est bien discret. On aurait pu s'attendre à le voir tenir un rôle, un premier rôle, être à sa place de chef de famille, à prendre à cœur les intérêts du prophète, comme le fera son épouse, mais rien de tout cela. On imagine qu'il a ses préoccupations, il a ses centres d'intérêt. Il va sans doute à la synagogue, il participe aux fêtes religieuses, suivant la tradition, mais son cœur, on l'imagine, n'est pas investi pour le service de la maison de Dieu. Et quelle différence ça fait avec Abraham, par exemple, qui reçoit l'Éternel en Genèse 18. On va juste lire quelques versets pour voir le contraste avec Abraham. Genèse 18, et on peut lire les versets 1 à 8. L'Éternel lui apparut, donc à Abraham, parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout, près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Elle dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. » Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, « Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris, fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Et là, on voit un exemple de service désintéressé. Abraham ne ménage pas sa peine pour offrir le meilleur. Et quel empressement ! On voit au verset 2, il courut. Verset 6, il alla promptement. Verset 7, il courut. Et il se mêle également de l'organisation du repas. Il prend en charge l'accueil de ses hôtes. Et peut-être que l'exemple d'Abraham, et a fortiori le contre-exemple donné par le mari de cette Tsunamite, peut nous éclairer sur notre disposition à servir le Seigneur. On peut voir de quel côté on se situe. Ainsi, donc, cette femme est décrite comme une femme de distinction, c'est-à-dire une femme ayant un bon témoignage, veillant à ce que ses paroles, à ce que son comportement honore le Seigneur. Mais elle a une autre caractéristique, elle est aussi hospitalière. Et sa vie, donc, porte des fruits manifestés dans ce récit par son hospitalité. La maison est ouverte pour un bon repas et Élisée a pris l'habitude d'y être reçue. On peut penser qu'il s'y sent bien, un peu comme à la maison, à l'exemple du Seigneur qui aimait s'arrêter à Béthanie. Alors pourquoi est-ce qu'il s'y sent bien dans cette maison ? Ce n'est pas une hospitalité, disons, contrainte. Ce n'est pas fait par devoir, sans amour, par obligation, en espérant que le prophète ne vienne pas trop souvent. Ce que l'on dit là, évidemment, c'est valable pour toutes les formes de service. Colossiens 3 nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » Dans ce cas, c'est une hospitalité de cœur. L'atmosphère, sans doute, est spirituelle. Le prophète y est attendu, la table est dressée, l'accueil est cordial. Et à travers ce service, quelque part, c'est le Seigneur qui est honoré. Et sans le savoir, cette femme, elle allait être au bénéfice de la promesse que donnera le Seigneur bien plus tard dans Matthieu 10, 41. « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. » Verset 42 précise « Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Or, les choses auraient pu très bien en rester là. Elle avait déjà fait beaucoup, cette femme, pour le service de Dieu. Et il aurait été peut-être naturel de s'en contenter. Mais la stagnation, ce n'est pas un principe divin. Dans 1 Thessaloniciens 4, on lit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur à marcher à cet égard de progrès en progrès. Et aller de l'avant, progresser dans la connaissance du Seigneur, dans le service divin, s'investir dans l'œuvre de Dieu, c'est à quoi chaque enfant de Dieu est appelé, et c'est à cela que nous sommes appelés. Ainsi, au verset 10, il y a cette proposition, faisons une petite chambre haute avec des murs, mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Donc après le repas, maintenant le gîte pour la nuit. Alors, il y a des services qui coûtent plus que d'autres, qui demandent un investissement. Et là, en l'occurrence, la maison n'est pas suffisamment vaste, puisqu'il faut construire la chambre et la meubler pour recevoir dignement l'hôte qui est attendu. Donc voilà un travail qui demande du temps, de l'argent, des efforts. Et le Seigneur n'a pas promis que le chemin serait toujours facile à suivre et que le service serait sans difficulté et sans opposition. C'est d'ailleurs ce qu'il dit à ses disciples dans Jean 15. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Alors on pourrait être découragé en pensant que le service conduit nécessairement à la difficulté, à la persécution. Pour être complet, il faut aussi citer les promesses qui nous sont faites dans la parole. Et par exemple, Hébreux 6, verset 9. « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour vous, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Ainsi, joignant là le geste à la parole, la petite chambre est édifiée et meublée avec soin. Et puis si la parole de Dieu nous donne un descriptif de ce qui se trouve dans la chambre, rien n'est superflu dans la parole, il faut peut-être nous y arrêter une seconde. Alors, tout d'abord, il y a un lit. Alors un lit, c'est fait pour quoi? Un lit, c'est pour se reposer. Un lit pour se rétablir des fatigues de la route, pour récupérer après les luttes et les combats spirituels menés par le prophète. Et que nous offre le Seigneur quand nous venons à lui, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc le lit pour se reposer. Une table, une table c'est pour se restaurer, pour prendre la nourriture qui restaure le corps et l'âme. Et le psalmiste avait bien vite découvert combien il est bon d'être à la table dressée par le Seigneur. Vous voyez à quoi je fais allusion, psaume 23. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et combien il est bienfaisant de nous nourrir, nous aussi, de la parole de Dieu qui restaure, qui édifie, qui relève. Et puis, au-delà de ça, chaque homme, chaque femme sur cette terre a besoin de rencontrer celui qui a dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Donc le lit, une table, un siège pour s'y asseoir et méditer la parole tôt le matin avant d'affronter les défis de la journée, pour prier, rechercher la face de Dieu. Et un chandelier. Alors, le chandelier, bien sûr, il sert à éclairer. Il illumine à l'image du Seigneur qui éclaire, qui donne sa vie, comme c'est rappelé dans le chapitre 1er de Jean. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde a été fait par elle, le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le repos, le repas, l'intercession, la lumière, il ne manque plus rien dans cette demeure, dans cette chambre, pour accueillir dignement le prophète, de même qu'il ne manque rien pour chacun de nous, pour celui qui s'approche du Seigneur, qu'il reçoit tout pleinement en Christ, comme nous le dit la parole. Alors, vu de l'extérieur, Barian laisse transparaître qu'il y a une ombre au tableau. Même le prophète semble ignorer le désir de cette femme. Elle était stérile apparemment, elle n'a pas d'enfant. Vous savez qu'à cette époque, c'était un signe de malédiction divine, ce qui aura certainement valu du mépris, rejet de sa famille, de ses concitoyens. Mais on sait que Dieu fait toutes choses belles en son temps, et voulant récompenser cette femme pour son service et son hospitalité, le prophète lui annonce une parole qu'elle n'avait jamais imaginé entendre, c'est le verset 16. « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Là, c'est le combat de la foi. Sa longue déception l'a rendue sceptique malgré son engagement et le service qu'elle accomplit pour Dieu. Elle ne peut pas immédiatement saisir par la foi la promesse divine. Elle pense même qu'Élisée l'a trompée. Elle ne pouvait pas croire que son attente, son souhait allait enfin se réaliser. Et ça, ce n'est évidemment pas inhabituel. Est-ce qu'il ne nous arrive pas de douter, parfois aux promesses même de la parole, devant l'adversité ou devant les épreuves? Et il y a sans doute parmi nous beaucoup de tsunamites. Mais le Seigneur promet qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ça, c'est Éphésiens 3, 20. C'est un encouragement pour notre faible foi. Et malgré les doutes, la promesse a eu son accomplissement et elle a enfanté son fils. Parce que la parole de Dieu reste valable, qu'on la croit ou pas. Selon 2 Corinthiens 1, 20, les promesses de Dieu sont oui et amen, mais pas en nous, en Jésus-Christ. Nos doutes, nos craintes n'empêcheront pas Dieu d'accomplir ses promesses. Lui, il tient toujours sa parole. C'est ce que rappelait d'ailleurs déjà Josué à propos du peuple, quand il dit « De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet, toutes s'accomplirent. » Et au chapitre 23, verset 14 du même livre de Josué, « Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des bonnes paroles prononcé sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est resté sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. » Alors, le récit pourrait s'arrêter là. Nous avons vu cette croyante grandir, porter du fruit dans le service de Dieu, conformément à la parole de Dieu, il a manifesté sa grandeur, sa puissance en accordant un fils à cette femme. Et puis, donc, la vie n'a plus qu'à se poursuivre paisiblement dans ce petit village de Sunem. Mais il y a une suite. Et on va lire cette suite à partir du verset 18 et jusqu'au verset 37. Donc, toujours 2 Rois 4, à partir du verset 18. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père à Berlay Moissonneur, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Elle dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre. Et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée. Elle ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Élisée dit à Géasi, « Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur le lit. Élisée entra, fermait la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant, mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là dans la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua cette fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette tsunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Or, dans cette deuxième partie du récit, subitement, cet enfant, l'enfant de la promesse, celui qui a été donné par grâce, est repris, une courte maladie et la mort. Et on peut imaginer la détresse de cette mère sans ressources devant l'inexorable œuvre de la mort. Or, le premier intervenant dans ce récit, c'est le papa, incapable de discerner l'urgence de la situation, trop accaparé peut-être par le travail des champs ou par la moisson. Les choses de la terre l'occupassent point ses pensées que de toute sa vie, il n'a pas fait un pas de plus sur le plan spirituel, comme on le voit, verset 23. « Pourquoi veux-tu aller vers lui, donc vers Élisée? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Lui qui était au bénéfice de la grâce de Dieu, qui a reçu ce fils inspiré, qui a écouté les récits palpitants d'Élisée, on peut l'imaginer, qui a logé le prophète, il est resté complètement indifférent, en tout cas extrêmement superficiel, avec les choses spirituelles. Et on peut passer sa vie entière dans l'assemblée, ne pas manquer une réunion, et malgré tout rester éloigné du Seigneur. La maman, elle, au contraire, elle a grandi spirituellement dans la connaissance de Dieu. Au lieu du désespoir, des pleurs, elle répond simplement à son mari, « Tout va bien. » Au lieu d'écouter le diable, de regarder aux circonstances, et bien là, elle va démontrer la véracité de Marc 9, 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Puis certainement, elle aurait été d'accord avec le texte d'Éphésiens 4, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Cet événement, il nous rappelle que la foi ne dépend pas des circonstances, mais il doit dépendre uniquement de la parole de Dieu. Si Dieu a dit ou promis quelque chose, c'est dans sa parole, eh bien, c'est la vérité, cela va se réaliser malgré les circonstances ou malgré ce que l'un ou l'autre peut dire ou penser. Et l'attitude de cette femme illustre cela. Elle couche donc son fils mort dans la chambre qu'elle avait préparée pour Élisée, en réalisant sans doute que seul celui dont Élisée est le messager peut intervenir pour faire vivre son fils. Or, le chemin de la foi est souvent semé d'embûches, de difficultés. La route pour aller retrouver Élisée, il y a plusieurs obstacles à surmonter. Déjà, la distance. Entre Sunem et El Mont Carmel, à vol d'oiseau, c'est en gros 60-70 km. Aujourd'hui, par la route, entre 80 et 100. Il faut aller, puis il faut revenir, à pied, en tirant l'âne. 70 km. Et puis, deuxième difficulté, l'attitude de Géasi. Alors, il faut de la persévérance et une attitude de foi, une confiance inébranlable dans le Dieu d'Israël pour ne pas venir jusqu'au pied du prophète. Et la persévérance, eh bien, c'est aussi un point qui est important si nous voulons recevoir quelque chose de Dieu. Ma nature, je ne sais pas la vôtre, c'est d'être comme très superficiel, alors que le Seigneur demande de persévérer jusqu'à la fin. Marc 13:13 nous dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Hébreux 10:36 « Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis ». Et dans ce récit, eh bien, Géasi, dont il faut dire quelques mots, lui, là, est un obstacle. Un homme charnel, sans discernement, prenant des initiatives fâcheuses. Et l'homme charnel ne peut pas comprendre le chemin de la foi. Et on verra au chapitre, enfin, on verra, vous pourrez lire au chapitre suivant, qu'il démontre ce qu'il y a, il montre la réalité de son cœur, désireux qu'il est d'obtenir pour lui des avantages et des honneurs. Et on comprend là pourquoi Dieu n'a pas répondu à ses instances, puisqu'au verset 31 on a lu, « Il n'y eut ni voix, ni signe d'attention ». Un triste, triste résultat. Mais après un long chemin, après une route sans doute assez épuisante, Élisée et la maman sont de retour à la maison. Verset 32, qu'on a lu, « Élisée arriva dans la maison, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel ». Voilà la première chose qu'il fit, il pria l'Éternel. Ça a été sa réaction face à la situation. Il se trouvait sans doute dans une position un peu difficile. L'enfant que Dieu avait promis à travers lui était mort, sans aucun signe de rétablissement, même après Géasi ait fait ce qui lui avait été demandé. Néanmoins, nous ne voyons qu'à aucun moment Élisée perd la confiance en Dieu ou est frustré ou baisse les bras. Au contraire, il affronte cette situation comme il devait le faire. Il pria le Seigneur. C'est lui qui est la source de toute réponse. Élisée avait besoin d'avoir une indication, savoir comment gérer cette situation. Donc il adressa sa prière à la seule personne qui connaissait la réponse, le Seigneur. Et ce qui suit n'est pas une initiative personnelle d'Élisée, c'est l'obéissance aux indications divines. Il monta, se coucha sur l'enfant, et la chair de l'enfant se réchauffa. Or, pour que, lors de la naissance de l'enfant, il avait suffi d'une parole, pour sa renaissance, il devra persévérer, recommencer, s'y donner entièrement. Son être entier, les yeux, les mains, la bouche, doivent être mis au service du Seigneur. De même qu'il a fallu une parole pour créer l'homme, le Seigneur a dû offrir sa vie pour nous permettre de naître de nouveau. Or, quelle joie ça a dû être dans cette maison, que le triomphe de la vie et de la résurrection. Notre Dieu, un Dieu de délivrance, il n'a aucune limite à sa puissance et il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. La parole dans Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez d'abord ». Il n'est pas marqué « Cherchez aussi le royaume ». « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus ». Est-ce que cette femme de Sunem a regretté d'avoir voulu servir le Seigneur en recevant le prophète ? Est-ce qu'elle a regretté d'avoir pris à cœur les intérêts de la maison de Dieu ? Elle a reçu au centuple, et peut-être davantage, alors que ça soit aussi un encouragement pour nous, que nous puissions aussi prendre notre part dans le service que le Seigneur nous demande.
Après ce message qui nous encourage, j'avais cette pensée, Dieu a fait pour cette femme, c'est ce chemin, d'épreuve, puis ce chemin de résurrection, il le fait pour chacun de nous. C'est le même chemin, à notre niveau, à notre, avec la même puissance. Alors il faut qu'on soit encouragé, avec les mêmes épreuves aussi, mais après les épreuves, il y a la résurrection.
Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole ce matin. Seigneur, tu as remis devant nos yeux le service, la confiance, la persévérance à travers cette histoire de cette tsunami d'Élisée. Seigneur, merci de garder ces paroles, ce message devant nos yeux cette semaine. Seigneur, nous voulons également penser à tous ceux qui n'ont pu être là ce matin. Visite-les, Seigneur. On te remercie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.